Radio Okapi fête ses 12 ans ce vendredi 21 février. Dès 9h, diffusion depuis l'amphithéâtre de l'ISP Gombe de l'émission Okapi Service. Au programme, l'emploi, la corruption et tant d'autres questions qui vous interpellent. Okapi Service, c'est en direct de l'ISP Gombe, une émission grand public à ne pas rater pour ce vendredi 21 février de 9h à 11h. Okapi Service, toujours à votre service.
Bien, nous abordons à présent le deuxième thème interactif du jour. Je disais tout à l'heure qu'il n'est pas toujours facile pour les parents de surveiller les moindres faits et gestes des enfants, notamment des tout-petits. Il suffit d'un moment d'inattention pour que l'enfant renverse de l'eau chaude, se met la main sur la plaque d'un réchaud allumé ou encore sur des charbons ardents. Et voilà, vite un accident est arrivé. Et comment prévenir tout cela? Isidore Bamanaï, vous êtes éducateur à la vie et psychologue. Vous intervenez depuis Mbujimayi dans la province du Kassai-Oriental. Bonjour.
Bonjour aujourd'hui, bonjour aux auditeurs de la radio Okapi.
Alors nous parlons des accidents domestiques. Il y a certains enfants qui sont un peu turbulents à la maison. Alors quelles sont les précautions que les parents doivent prendre pour éviter les accidents?
Oui, merci beaucoup aujourd'hui, merci pour l'invitation. Bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment. Je crois qu'on ne peut pas y aller par quatre chemins. La première précaution à prendre, c'est surveillance tout azimut, comme on le disait dans les MPR, vigilance tout azimut. Surveillance tout azimut, il ne faut pas rester distrait. Parfois aussi, les parents rentrent à la maison un peu saouls. Même devant les enfants, il n'a pas le temps de surveiller et vite un accident est arrivé. Donc, surveillance tout azimut. C'est par exemple que les enfants ne doivent pas rester seuls à la maison. Il faut toujours quelqu'un de plus âgé, un adulte qui doit les surveiller. Mais même si les enfants restent seuls, on se rassure avant de partir qu'on a bloqué toutes les portes des objets auxquels ils ne doivent pas accéder. Et ils sont restés soit au salon, soit dans leur chambre. Bon, ils peuvent aussi sortir dehors et qu'on se rassure que dans les alentours, là, il n'y a pas un objet qui peut provoquer un danger ou un accident. Mais aussi, il faut instruire les enfants tout le temps, parce que on vient au monde, on n'a rien dans sa tête. C'est en vivant au quotidien, c'est en vivant avec les autres qu'on apprend petit à petit que si la plaque est allumée, elle chauffe, on ne peut pas mettre sa main dessus. Donc il faut instruire les enfants.
Oui.
Surtout en ce qui concerne les objets tranchants comme les couteaux, les lames de rasoir, il faut régulièrement rappeler aux enfants que si vous touchez à cet objet-là, vous risquez de vous blesser. Même si après instruction, l'enfant peut tenter, mais il faut, comme on a dit, il faut aussi les surveiller à tout moment, de telle manière qu'ils ne puissent pas, si on a repassé les habits et que le fer est resté encore chaud, on doit se rassurer que le fer est chaud, et qu'il est à l'endroit où l'enfant ne peut pas arriver pour y toucher. Donc, surveillance, instruire les enfants pour que les enfants puissent déjà à cet âge-là apprendre un certain nombre de choses. Et si on a trouvé la plaque qui chauffe, on peut bien se rendre compte que la plaque chauffe, on peut bien se rendre compte que ce fer, on l'a utilisé, il est encore chaud. Il doit bien savoir que la lame de rasoir peut le blesser. Le couteau, mêmement. Vous voyez, quand la maman est à la cuisine, qu'elle est en train de couper en morceaux les kilos de viande qu'on a ramené du marché.
Oui.
Si l'enfant est là, on lui dit, voilà, le couteau que j'utilise ici, c'est pour couper les morceaux de viande, mais si vous y mettez votre main, le couteau risque de vous blesser.
Voilà.
Et quand on instruit,
oui,
en même temps, on met tous les autres objets dangereux en dehors de la portée des enfants.
Voilà, on demande souvent.
C'est par exemple,
oui,
les assiettes qui se cassent et ainsi de suite.
Voilà, mais il y a souvent des enfants turbulents et pleins d'énergie qui sautent, qui touchent, qui cherchent à toucher à tout. Et pourquoi cette tendance chez les enfants à vouloir tout palper?
Oui, c'est normal. À un certain âge, l'enfant a ce qu'on appelle psychomoteur. Il peut bouger, il peut toucher les choses. C'est sa façon d'apprendre. Et souvent, ce qu'il a à la portée de la main, il a tendance à mettre ça dans sa bouche pour sentir comment ça s'arrive là-dedans et que, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais. C'est normal. C'est normal qu'à un certain âge, vers les 3 ans là, l'enfant est pas tellement turbulent, mais il a plein d'énergie. C'est sa façon de dépenser l'énergie pour un peu se fatiguer et trouver un sommeil par après. Donc, même dans ces enfants qui sont un peu plus turbulents que les autres, c'est là alors qu'il faut augmenter la surveillance, parce que avec des enfants comme ça, si la mère les a oubliés, et l'enfant est resté au salon, elle est entrée dans la cuisine, c'est bientôt des verres que l'on casse, c'est bientôt qu'on a ouvert une porte, et là-dedans, tout peut arriver. Et avec des enfants comme ça, si la mère est entrée à la cuisine, elle doit se rassurer qu'il y a quelqu'un là qui surveille l'enfant, ou elle entre avec l'enfant à la cuisine pour l'avoir à la portée de sa vue, de telle manière qu'elle puisse intervenir si l'enfant a tendance à aller toucher des objets qui peuvent apporter un accident.
Voilà, comment pour prévenir les accidents domestiques, Isidore nous dit qu'il faut surveiller la surveillance tous azimuts. Il faut instruire les enfants, leur montrer que tels objets sont dangereux. Mais malgré les instructions des parents, mais certains enfants, dès que les parents sont partis, ils font autre chose après.
Oui, je dis que quand les parents partent, il faut que les parents se rassurent que quand nous partons, derrière nous, il y a quelqu'un qui peut surveiller les enfants. Quelqu'un qu'on a aussi instruit, qu'on a bien instruit, et même avant de partir, on l'appelle, on lui rappelle les instructions. De telle manière qu'un accident ne puisse pas arriver tout de suite parce que les parents sont absents. Donc, si les enfants restent seuls, je voudrais insister sur le fait qu'avant de partir, les parents ont pris des dispositions pour mettre les enfants à l'abri du danger qui peut arriver en leur absence. Ils ont bien débranché, par exemple, la télévision. Et s'il y a un laptop, on a pris la précaution de l'éteindre. On a pris la précaution de mettre tous les objets qui peuvent provoquer des accidents, on les a mis hors de portée des enfants, parce que les enfants vont rester seuls à ce moment-là. Il n'y a personne pour les surveiller. Mais s'il y a quelqu'un, on lui rappelle les instructions et on lui répète qu'on ne doit pas laisser les enfants faire n'importe quoi dans la maison parce qu'un accident est vite arrivé, un enfant peut se casser les bras, peut même se crever l'œil. Dans ce moment-là, on va intervenir en retard et on va regretter. Donc on prend les dispositions avant de quitter la maison de telle manière que les enfants qui restent ne puissent pas connaître un accident.
Voilà, il y a certaines personnes à qui on laisse les enfants malgré les instructions qui sont aussi distraites et les accidents peuvent toujours arriver.
Oui, les accidents peuvent toujours arriver, même quand devant les parents et même les accidents peuvent toujours arriver. Mais si la personne qui reste derrière nous, c'est qui? Est-ce un enfant comme les autres enfants? Est-ce quelqu'un d'éveillé? Parce qu'il y a parfois des gens qui ne retiennent pas les instructions. Donc on ne prend pas chez soi n'importe qui.
Ça peut être une femme de ménage.
Oui, si c'est une femme de ménage avant de l'engager, on s'est quand même rendu compte que cette femme est capable de surveiller les enfants. Parce qu'on l'a engagée non seulement pour des travaux ménagers, mais aussi pour assurer la surveillance des enfants en l'absence des parents. Avant de l'engager, on devra bien prendre en considération le fait que quand on lui donne des instructions, cette femme est capable d'intérioriser les instructions et de les appliquer derrière les parents. Sinon, on l'engage pourquoi et on la paye pourquoi? C'est pas seulement pour préparer à manger. Et si chaque fois qu'on rentre, on a cassé les verres, on a cassé les assiettes, ou même un enfant s'est brûlé ou s'est blessé, à ce moment-là, sa présence ne se justifie pas. Donc, il faut engager quelqu'un d'éveillé, quelqu'un qui peut bien suivre une instruction et la mettre en pratique. C'est pas difficile.
Voilà, c'est pas difficile. Hein. Les accidents domestiques chez les enfants, comment les prévenir? Déo Morichaud nous appelle des Kindous dans la province du Maniema. Vous voulez participer, les mamans? Cette question vous intéresse? N'hésitez pas à composer les 081-890-63-94. Appelez-nous et nous allons juste vous rappeler pour participer.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent RadioCapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. exprimer votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Les accidents domestiques chez les enfants, comment les prévenir? Déo Maurice, vous êtes à Kindou, bonjour.
Oui, bonjour Jody et bonjour à notre invité.
On vous écoute Déo.
Oui, j'ai des petites questions à poser à notre invité Isor Bamanay.
Oui.
La première, je voudrais juste savoir, est-ce que s'il y a des enfants qui sont totalement têtus, même si on les interdit à ne pas toucher des choses tranchantes, les enfants n'écoutent pas. Dans ce cas, est-ce que les parents, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont laisser les enfants faire des choses pareilles? Ou soit on peut faire quoi?
Alors, vous avez
et
eu
la deuxième ouais, question.
Déo, vous avez eu des enfants têtus comme ça, qui touchaient aux objets tranchants?
Oui, je vois ici dans la parcelle où j'ai vu les enfants de mon oncle, ils sont totalement têtus. Même si on les interdit, ils ne comprennent pas.
Voilà, deuxième question.
Oui, la deuxième, je demande à notre invité. Il y a des parents, vraiment, surtout les mamans, qui entêtent les enfants ou qui encouragent les enfants à faire du mal.
Comment ça?
Mais là, dans ce cas-là, si l'enfant déborde vraiment dans son éducation, qu'est-ce qu'il peut conseiller à une mère falaise?
Déo, comment, est-ce que vous avez un exemple, un cas, une maman qui encourage son enfant à faire le mal?
Ça peut arriver que l'enfant veut toucher même, ou ça veut jouer avec un couteau et... Son grand-père l'interdit, mais la maman intervient en disant « Non, laissez mon bébé, tu sais, ça c'est mon seul que j'ai. Bon. » Dans les cas pareils, qu'est-ce que l'invité peut conseiller à une telle mère?
D'accord, merci. Thomas Mangala nous appelle de Kindou, bonjour.
Bonjour, monsieur Jedi, bonjour à l'invité, papa Isidore Babanay.
On vous écoute.
Merci beaucoup, c'est un sujet tellement intéressant. J'ai des témoignages par rapport à cet accident du ménage. Il y a une maman qui avait perdu son enfant.
Oui. Oui, Thomas. Désolé, Thomas, on l'a perdu, il n'est plus en ligne. Isidore Mamanay, il va peut-être nous rappeler. Isidore, vous avez suivi un déo de Kindou qui dit il y a des enfants têtus, on leur interdit des choses et ils reviennent encore déçus. Et la maman qui dit qu'on laisse l'enfant, il dit que certaines mamans sont très négligentes et disent qu'on laisse l'enfant jouer avec le couteau. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Oui, merci beaucoup. Bonjour à Déo. L'enfant têtu, ici nous parlons des enfants peut-être de 3 à 4 ans, je ne sais pas comment lui s'est rendu compte qu'à cet âge-là, un enfant est têtu. C'est vrai qu'à cet âge-là, l'enfant veut découvrir le monde qui l'environne, il a envie de toucher l'une ou l'autre chose. On ne peut pas dire qu'à cet âge, l'enfant est têtu. Ce que les parents doivent faire, c'est répéter calmement les instructions et demander à l'enfant s'il a compris. Et lui faire dire qu'il a compris. Et même lui demander qu'il promette qu'il ne va plus jouer avec le couteau ou avec une lame de rasoir. Je crois que quand on insiste régulièrement, l'enfant va finir par intérioriser le principe et il pourra se conduire en tenant compte de l'instruction que les parents ont donnée. Oui, je rappelle qu'à cet âge-là, l'enfant veut toucher à n'importe quoi. Et les parents sont là pour l'encadrer, pour le guider, parce qu'il doit apprendre à découvrir autour de lui ce qui l'environne. Mais il faut répéter l'instruction, il ne faut pas que les parents se lassent, il ne faut pas que les parents se disent « Oh, cet enfant, j'ai toujours parlé, il ne comprend pas ». Les parents ne doivent pas se lasser de continuer à répéter. C'est comme l'évangile, on nous la lit chaque fois que nous allons à la prière. On lit les mêmes versets dans les mêmes chapitres. Les pasteurs et les prêtres ne se lassent pas de nous enseigner comment nous devons arriver à avoir la vie éternelle. C'est ce que les parents doivent faire aussi avec leurs enfants. Mais si une maman encourage son enfant à jouer avec le couteau, c'est pas un jouet. Je crois que si l'enfant joue avec un couteau, il faut peut-être lui chercher quelque chose d'autre pour qu'il soit occupé à avoir quelque chose à main. Il y a autant de jouets sur le marché. Et une mère qui encourage son enfant à jouer avec le couteau, je crois que c'est une imprudence coupable, parce qu'un jour, cet enfant va se blesser, ou même il peut s'enfoncer le couteau dans l'œil, et l'enfant va perdre son œil comme ça pour rien. Donc, la mère, là, je crois, elle doit se désavouer de cette façon de conduire son enfant.
Jean des Dieux nous appelle des Kikwit dans le Bandundu. Bonjour.
Alice, bonjour à votre invité.
On vous écoute, Jean des Dieux.
Oui, je suis content. Et cette émission qui est tellement intéressante. Moi, c'est bien comme ça, mais des émissions comme ça. J'ai trois préoccupations à demander à notre invité. Parce que ici, il y avait une autre voisin. Il avait un enfant de 11 ans. Alors, avec une autre enfant de 3 mois, qui était encore bébé, et une autre de 2 ans. Bon, elle est partie au marché. Elle a dit à un enfant là de 11 ans pour qu'elle puisse donner le médicament à l'enfant de 2 ans qui était malade. Maintenant, cet enfant-là a pris le produit en flacon. On a donné des fleurs à cet enfant-là et après, il a pris encore le flacon et il a mis sur la table. Maintenant, subitement, cet enfant-là est allé prendre cet flacon-là qui est sur la table et il a emballé tout le derrière et ça lui a intoxiqué. Qu'est-ce que nous pouvons trouver à cet moment-là? On nous a appelé pour qu'on puisse acheminer l'enfant au hôpital. C'était déjà tout ça, l'enfant était un Nous demandons aussi une deuxième préoccupation, c'est par rapport aussi à nos mamans qui ont des enfants et partir chercher, très tôt pour chercher à vendre. Maintenant, ils laissent des enfants pour dire que non, et ils commissionnent à l'enfant, les enfants et même restent prendre à manger à l'exception de la famille. C'est là que je pense que avant. Des accidents chez les enfants. Parce que là, un enfant qui va chauffer lui-même le soir à la cuisine, mais ça ne pouvait pas créer des accidents.
D'accord.
Puis, le problème là de transport, vous passez avec l'enfant et là, vous sortez de la maison pour qu'il puisse maintenant et vous pouvez prendre les taxis. Vous laissez l'enfant derrière. Quand l'enfant voulait traverser, il est maintenant tamponné. Là, comment nous pouvons prévenir cela?
Voilà, merci. Clément Ikaté nous appelle de Bukungu, dans la province de l'Équateur. Bonjour.
Bonjour, Radio Café.
Clément, s'il vous plaît, veuillez réduire le volume sensiblement, le volume de votre radio, ou éteignez carrément votre radio. Vous allez suivre à partir de votre téléphone pour éviter ces perturbations à l'antenne. C'est fait?
Merci, oui, c'est fait.
D'accord, merci. Oui. On vous écoute maintenant.
Oui, je voudrais un peu revenir sur l'âge de l'enfant, comme oui. Notre invité est là. Parce que à quel âge vraiment qu'on peut demander ou dégronder de l'enfant de ne pas toucher les objets trachants? Et parce que ici chez nous, nous avons l'habitude de préparer avec des bois. Alors, l'enfant rôde toujours à côté de sa maman. Alors, maintenant, donc, il y a tous les risques. Et en dehors de ça, il y a aussi donc des assiettes et consorts. Mais je voulais revenir sur l'âge. Donc de quel âge à quel âge vraiment qu'on peut au moins gronder ou bien interdire à l'enfant? Parce qu'à un certain âge, l'enfant ne saura pas donc suivre les conseils que les parents peuvent donner. C'est un peu ça ce que je voulais un peu demander à notre invité.
D'accord. Adrien Amouyeti, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Jody Daniel Kachama. Bonjour aussi à notre éducateur, Monsieur Isor Bamanaï. Pour le moment, j'ai un témoignage. On avait une voisine qui donnait des instructions à ses enfants. Malgré ça, ses enfants étaient toujours petits. Pour elle, comme solution, elle laissait donc ses enfants là jouer avec des objets tranchants. Et après, ses enfants s'étaient blessés. Et pour leur maman, c'était vraiment une meilleure solution. Elle disait pas qu'il fallait laisser les enfants. Elle donnait même des conseils à d'autres voisines qu'il fallait laisser d'abord vos enfants jouer et après avoir été blessés, ils ne répéteront donc jamais cela. Et selon vous, Michel Dor Bamana, vous trouvez aussi ça comme meilleure solution ou c'est comment? Merci, Monsieur Jody.
Bien, merci. Bien, revenons agent des dieux qui nous parle d'une maman qui a un enfant de 11 ans et un autre de 2 ans malade. Et puis la maman va au marché, demande à son enfant de 11 ans de donner le médicament à son petit frère. Et ce qui était fait, et puis le gars, il laisse le flacon de médicaments sur la table et le petit frère de 2 ans revient encore prendre tous les médicaments qui étaient sur la table et il a avalé. Et puis il y a eu intoxication. Et puis voilà ce qui était arrivé. L'enfant est allé prendre les médicaments lui-même. Voilà. Et il nous dit les accidents sur la route, les parents qui se promènent avec les enfants qui restent en arrière. Voilà, l'enfant peut être renversé par un véhicule. Quelles sont les précautions que les parents doivent prendre? Et puis la maman qui part et qui demande aux enfants eux-mêmes d'aller se servir dans la cuisine. Est-ce que c'est pas dangereux? Isidore, qu'est-ce que vous pouvez dire à Jean des Dieux?
Oui, merci beaucoup. Bonjour à Jean des Dieux. Bonjour à Clément et à Adrienne. Je crois que ce n'est pas une responsabilité qu'on peut laisser à un enfant de 11 ans administrer le produit pharmaceutique à son petit ou à sa petite. C'est vraiment dangereux. Je crois que la maman doit gérer son temps de telle manière qu'elle puisse aller au marché avant l'heure et revenir elle-même administrer le produit au bébé. Souvent, quand nous avons des produits en sirop, contre la toux, c'est un peu sucré. Je crois que si l'enfant a goûté à la petite cuillère et que la bouteille est restée à sa portée, il est tenté de continuer parce que c'est succulent dans sa bouche. Je crois que ce n'est pas un enfant de 11 ans qu'on confie la responsabilité d'administrer des produits pharmaceutiques à un enfant. Et même alors, si on l'a fait, on devrait dire à cet enfant d'éloigner tout de suite les flacons, les remettre dans l'armoire et fermer l'armoire de telle manière que l'enfant ne puisse pas s'intoxiquer, parce que quand l'enfant est intoxiqué, peut-être la mort peut s'en suivre tout de suite. Mais quand on veut traverser la route, qu'on est accompagné des enfants, on prend les enfants à main et avant de traverser, on vérifie à gauche et à droite s'il n'y a pas un véhicule qui arrive, une moto et un vélo. Et au bon moment, on traverse la route en tenant les enfants par les mains, on ne les laisse pas derrière. Parce que quand on les laisse derrière, un accident est vite arrivé. Ça, c'est de l'inattention, une attention vraiment coupable. Mais s'il y a à manger dans la cuisine et que les enfants doivent se servir, je ne sais pas, ce sont des enfants de quel âge? Les enfants qui sont capables de se servir, je crois que ce ne sont pas des enfants de 3 ans ou 4 ans. Ce sont des enfants peut-être qui ont 7 ans, 8 ans, ils peuvent se servir à la cuisine. Encore, on devra se rassurer que la plaque qu'on a utilisée pour chauffer les aliments est complètement froide, qu'en ce moment-là, les enfants peuvent accéder. Mais pourquoi ne pas leur laisser la nourriture déjà dans des plats pour qu'ils entrent seulement retirer les plats et commencer à manger si les parents ne sont pas là? Donc, et même quand les enfants doivent se servir à la cuisine, je crois qu'on a suffisamment à manger à la cuisine. Sinon, si on n'a pas suffisamment à manger, c'est que ceux qui se servent, les premiers, là, risquent de vider la casserole. Et les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils arrivent? Donc, c'est un problème de précaution.
Oui.
Si on doit laisser les enfants accéder à la cuisine, on leur dit, venez, quand le moment venu que vous avez faim, je vais poser votre nourriture ici. Et on a pris le soin de distribuer la nourriture pour tout le monde, de telle manière que les enfants qui étaient partis à l'école, quand ils reviennent, qu'ils ne manquent pas à manger. Sinon, on aura vidé la casserole où il y a de la viande, et les autres viennent seulement manger avec les feuilles de manioc. En ce moment-là, ils seront mécontents. Pour notre ami Clément, qui est à Bokungu, il dit à quel âge on peut donner des instructions aux enfants. Vous savez, Clément, l'enfant, on commence à lui parler même encore dans le sein de sa mère. Et l'enfant est capable de s'habituer à la voix et de son père et de sa mère. Donc, il n'y a pas un âge pour commencer à parler à un enfant. Même quand il est la bébé, 3 ans, 4 ans,
oui,
qu'on est avec l'enfant à la cuisine, on utilise des objets tranchants, on peut toujours lui dire, tu vois maman, ça c'est un objet tranchant, on n'y touche pas. L'enfant est capable d'entendre.
Il dit là-bas, Isidore Bamana, il dit qu'à Bokungu, ils utilisent beaucoup plus le bois de chauffe pour préparer les aliments et l'enfant tourne toujours autour de la maman pendant qu'elle travaille là, à la cuisine.
Oui, pendant que la maman travaille et que l'enfant est autour d'elle, elle doit avoir fait attention à son enfant qui est autour d'elle pour qu'elle ne puisse pas mettre son doigt dans le feu. Et comme Adrienne nous dit que la maman là laisse ses enfants travailler, jouer avec les objets tranchants, comme ça quand ils se blessent, ils vont apprendre à ne plus y toucher. Oui, c'est comme, je crois que c'est Rochereau qui a dit, si l'enfant veut mettre les doigts dans le feu, on le laisse foutre son doigt dans le feu. Je crois que c'est dangereux parce que quand l'enfant est brûlé et qu'on devra le soigner, peut-être qu'il est brûlé au deuxième degré et que peut-être sa peau à ce niveau-là, pour la remettre en état, ça devient un problème. Et je crois qu'on doit toujours prendre des précautions pour éviter que les accidents arrivent à nos enfants. On ne doit pas laisser ces enfants jouer avec les objets tranchants comme pour leur apprendre que quand ils seront blessés, ils pourront eux-mêmes se dire « Ah, ça, ça peut me blesser ». Bon, si c'est une petite blessure, peut-être, mais je crois que le mieux à faire, c'est de ne pas laisser les enfants jouer avec les objets tranchants, les éloigner de ces objets, les mettre en dehors de leur portée, mais aussi les instruire que quand ils y touchent, ils peuvent provoquer un accident.
Voilà, Innocent Mungu nous appelle depuis Yarou. Junior Madi est à Kinshasa. Nous parlons des accidents domestiques, comment les prévenir. Pour participer, composez 081-890-63-94.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explication et débat autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Innocent Mungu, vous êtes à Arou. Bonjour.
Bonjour, oui, mon frère.
On vous écoute, Innocent.
Justement, je voudrais faire un témoignage par rapport à ce qu'on a vécu dans les temps. Donc, un jour, comme ça, quand nous revenions de l'école, on arrive dans une famille, on trouve un bébé de 2 ans qui avait 4 pattes, là, et en train de jouer avec un serpent. Alors, de loin, là, nous étions curieux, on a commencé à observer, nous étions encore à fond. À un moment donné, il jouait. Le serpent cherche à partir, il tient la queue, le serpent se retourne, le serpent s'est plié, qu'on sort, et ainsi de suite. Mais à un moment donné, quand la maman de l'enfant est arrivée, la maman observe ça de loin, la maman va crier à haute voix, et dès que la maman crie et commence à approcher l'enfant, et à ce moment-là, que le serpent aussi devient et donc agressif. Mais le serpent cherchait tout moyen pour s'évader, pour se... Donc, s'en aller. Mais et c'est ce qui nous a marqué. Comment se peut-il que, dans les grandes principales, hein, donc, les serpents jouaient normalement avec l'enfant. Et l'arrivée de la grande personne, des grandes personnes, les serpents changent, donc, deviennent agressifs, et puis, qu'on sort, et puis, cherchent à s'évader. Et comment notre invité peut, donc, expliquer cela au moins?
Oui, attends, Innocent, et comment s'est terminée l'affaire? Qu'est-ce qui s'est passé après?
Finalement, le serpent s'est évadé. Nous étions encore à fin, à l'âge de deuxième année, l'école primaire. Nous étions incapables de donc, c'était aussi étant donné que Luma, ça c'était milieu, donc, rural, là.
Oui.
Et les brousses étaient proches de la maison, et puis, le serpent était entré tout simplement dans la brousse et s'en allait.
Voilà, donc il y a eu beaucoup plus de peur que de mal. L'enfant n'a pas été mordu, hein.
L'enfant n'était pas vraiment mordu, l'enfant jouait à toute aise avec le serpent.
D'accord. Et la question, c'est de savoir pourquoi, lorsque la maman a crié, le serpent est devenu agressif.
Oui, et c'est ça la question. Et puis, en même temps, j'ai semblé constater que les enfants vivent dans des situations de haut risque, mais ils sont très rarement blessés. Et ça aussi, comment cela arrive comme ça?
D'accord, merci. Junior Madi, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Junior. Oui, bonjour, monsieur Florent.
On vous écoute, Junior.
Oui, je voulais un peu savoir, est-ce que frapper un enfant ou lui priver à manger, c'est aussi une bonne façon de lui aider à ne pas être turbulent ou à ne pas avoir tendance à toucher à n'importe quel objet nuisible? C'est ça un peu ma question. Je salue tous les auditeurs de la radio Kafi. Et surtout, bon anniversaire à vous.
Merci, Junior. De Kinshasa, Alphonse Boudril, depuis Ngokolo, en province orientale. Bonjour. Bonjour, Alphonse.
Oui, bonjour, Jeudi. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
On vous écoute, Boudril.
Oui, j'ai une question malheureusement qui vient d'être posée. C'est celle de savoir si pour certains parents qui fouettent leurs enfants et ils disent que c'est une bonne façon d'éduquer ces enfants-là. Donc, est-ce que c'est bon aussi? Qu'est-ce que dit l'invité? C'est cette question-là, malheureusement, c'est déjà posée par mon prédécesseur.
Ouais, vous l'avez tout de même posée. Merci d'avoir appelé Alphonse. Berry Franklin Luchaka, que disent les internautes sur la page Facebook d'Okapi Service?
Bon, en fait, je dis, ils sont très nombreux à pouvoir dire que tout ça, c'est la faute à la parité, parce que les femmes n'aiment pas rester à la maison. C'est par exemple le cas de Polydor Moufoula qui dit que pour prévenir les enfants contre les accidents domestiques, il faut que la femme reste à sa place.
Non, pour prévenir les accidents domestiques.
Oui, les accidents domestiques chez les enfants.
Oui.
Il faut que la femme reste à sa place, c'est-à-dire le ménage, parce qu'aujourd'hui, toutes les femmes veulent être au service avec les problèmes des parités, et c'est ça la grande conséquence. Ils sont très nombreux à réagir de la même manière.
Merci. Isidore Bamanaï.
Oui, merci beaucoup. Merci à Innocent. Un enfant qui jouait avec un serpent, et c'est seulement quand sa mère est arrivée que le serpent est devenu agressif. Je crois qu'il y a là la notion que les bêtes féroces attaquent souvent quand ils se sentent eux-mêmes en danger. Quand ils ne sont pas en danger, ils n'attaquent pas. C'est comme le lion. Le lion ne peut pas attaquer quelqu'un en face. Le lion attend que quelqu'un se retourne pour pouvoir bondir. Et surtout aussi quand il se sent menacé par la personne. C'est ainsi que nous voyons dans les documentaires des hommes qui s'approchent des bêtes féroces, qui les apprivoisent et qui s'habituent avec eux. Donc, l'enfant, là, innocemment, il jouait avec le serpent et le serpent ne s'est pas senti en danger. C'est quand la mère est arrivée qu'elle a crié fort que le serpent se dit, dans ce milieu, on peut m'attaquer, on peut même me tuer. Heureusement pour l'enfant, le serpent est parti, il ne l'a pas mordu. Dans l'autre cas, le serpent aurait mordu l'enfant. La mère aurait pu prendre tout son calme et peut-être s'approcher tout doucement et chercher à retirer l'enfant. Mais je crois que devant une situation comme ça, sous l'émotion, on peut facilement crier, et quand on a crié, le serpent s'est senti en danger. Le serpent pouvait mordre l'enfant. Est-ce que ça s'explique autrement? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va rentrer dans le monde mystique pour dire il y a les ancêtres qui nous protègent, il y a l'ange gardien, il y a tout ça. Mais sur le plan de la science, nous savons que les bêtes, même les plus féroces, n'attaquent que quand ils sont en danger. Pour Junior, il dit est-ce qu'il faut frapper comme sanction pour apprendre à l'enfant de ne plus jamais toucher aux objets tranchants ou même privés à manger. Et je crois que quand on frappe l'enfant, on lui fait mal dans son corps et les relations entre parents et enfants sont teintées de violence et l'enfant va se dire mais mon père ici, ma mère ici, ils sont violents, ils sont mauvais et même l'instruction sera oubliée tout de suite parce qu'on a frappé l'enfant. Et moi, je crois que la meilleure des choses, c'est de répéter calmement et même de faire répéter à l'enfant ce qu'on lui a dit, de telle manière que l'enfant intériorise petit à petit les principes qui doivent désormais le guider. Mais quand vous lui privez à manger, vous causez du tort à son état de santé. Et ça, ce sont des agressions vis-à-vis de l'enfant. Et je crois qu'il faut plutôt répéter plusieurs fois. Même s'il faut tirer un peu les oreilles, on tire les oreilles de l'enfant, on lui dit, je te tire des oreilles pour que tu puisses intérioriser le principe de telle manière que l'enfant se dise, ah, quand j'ai oublié et que j'ai recommencé à jouer avec les objets tranchants, on m'avait tiré les oreilles. Donc ce n'est pas frapper, c'est peut-être tirer les oreilles.
Voilà. Tirer les oreilles.
Quand nous a dit, à cause de la parité, les femmes doivent aller travailler, les enfants restent seuls à la maison.
Oui.
Je ne rentre pas dans la discussion sur la parité. Je crois que la femme, si elle a des capacités pour pouvoir travailler en dehors du foyer, elle peut bien le faire. Mais on prend des dispositions à la maison pour que les accidents n'arrivent pas. Si on a pris son vin à la table, si on a pris du whisky, et on ne doit pas laisser la bouteille sur la table avec le verre. Sinon, l'enfant qui a 3-4 ans Il dit, j'ai vu papa prendre, je crois que c'est bon. Il peut mettre un verre plein et vous le trouvez KO avec un cerveau complètement inhibé.
Oui.
Donc, il faut prendre des précautions pour qu'à la maison, les accidents n'arrivent pas.
Isidore Bamana, éducateur à la vie, nous vous disons merci d'avoir accepté de participer à cette émission, de répondre à nos questions et à celles des auditeurs. Merci et à la prochaine.
Merci Jody, au revoir aux auditeurs de la Radio Capitale.